Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
Vous avez quitté au début de l'été la direction du journal Libération pour lancer Engageons-nous, mouvement qui veut redonner vie aux idées social-démocrates et aux chances de la gauche en 2022. Et vous publiez un recueil de vos lettres politiques, chroniques quasi quotidiennes depuis 2017, sous le titre Anti-Macron. Intitulé qui, si je puis me permettre, ne correspond pas tout à fait au contenu, qui est bien plus nuancé, subtil et brillant qu'un pamphlet incendiaire.
Vous êtes fort aimable.
Mais vous êtes maintenant dans une posture d'opposant sans concession, c'est ça?
C'est l'aboutissement de l'itinéraire. Parce qu'au début, Macron, ça transparaît d'ailleurs dans le récit que je fais au jour le jour du quinquennat. Au début, et de droite et de gauche, bon, on prend ce qu'il y a de bien de chaque côté. On essaye de faire une synthèse et puis on cherche à rassembler les gens autour d'une politique nouvelle, avec un homme nouveau. Tout ça est séduisant. Le problème, c'est que la promesse n'a pas été tenue du tout. C'est-à-dire que très vite, on s'est aperçu que les premières mesures favorisaient les favorisés, que les réformes mettaient en cause des acquis sociaux. Et puis, il y a eu toutes ces phrases à l'emporte-pièce que tout le monde connaît maintenant et qui étaient la marque d'une certaine condescendance avec les gens de peu.
Quoi, et qui plombent l'ensemble.
Oui, à la fin des fins, oui, parce que on s'aperçoit que Macron n'est pas au centre. Il est au centre de la droite, ce qui n'est pas la même chose. Et ce n'était pas prévu, ce n'était pas comme ça qu'il s'est fait élire. Et donc là, il y a une forme de promesse trahie quand même. Alors, si on est de droite, on trouve ça très bien. Enfin, il se trouve que je suis de gauche, donc je trouve que ce n'est pas bien.
Alors, mais de quelle gauche parlez-vous? C'est celle qui a gouverné par intermittence depuis 1981, celle de Mitterrand, de Jospin, de Hollande, laquelle?
La gauche de l'action, moi j'appelle ça. C'est celle qui assume les difficultés du gouvernement. Il y a trois gauches. Hein. Il y a toujours eu. Il y a une gauche radicale, plus dure, plus dogmatique parfois aussi. Il y a une gauche écologiste. Et il y a une gauche, moi, que j'appelle de l'action, qui est la gauche qui veut gouverner, qui était social-démocrate.
Social-démocrate,
le
on disait
mot
avant.
Est un peu passé de mode maintenant. Enfin, une gauche réformiste, si vous voulez.
Mais qui ne représente plus grand-chose aujourd'hui.
Oui, mais sans
dans
elle.
Dans les urnes.
Sans elle. La victoire est impossible. Ça ne s'est jamais vu, d'abord. Il y a des choses qui ne se sont jamais vues, qui se voient.
Mais sans les autres composantes non plus.
Alors, il faut unir, bien sûr.
Ah,
mais
oui,
pour unir de manière valable, il faut d'abord qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire que la gauche réformiste, la gauche de gouvernement, renouvelle son discours, ses idées et sa stratégie. Et donc, c'est ça le but de l'association que nous avons fondée. Parce que je ne suis pas tout seul. On est 5000 maintenant, quand même. Hein. Et donc, c'est ça, toute la discussion est là. Est-ce qu'on peut absorber la gauche dans l'extrême-gauche? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut absorber la gauche dans l'écologie? Je ne crois pas non plus. Donc, il y a un discours autonome, qui est social et républicain en même temps qu'écologique, qui doit être tenu et qui ne l'est pas assez, à mon avis. Donc, il faut unir cette partie-là de l'échiquier politique qui va, en gros, des Verts jusqu'à Macron.
Oui.
Et il y a des Verts tout à fait rationnels qui peuvent rejoindre un mouvement comme celui-là. Et puis, il y a des macronistes déçus, il y en a même beaucoup. Et finalement, tout ça fait beaucoup de monde, potentiellement. Encore faut-il les convaincre.
Potentiellement, mais je voudrais qu'on laisse de côté les histoires d'appareils ou les querelles électorales. Oui, parlons du fond. Si je regarde vos positions, Laurent Geoffrin, et vous les exprimez assez régulièrement au travers de ces tribunes, et on le voit dans ce livre, vos positions européennes, favorables à l'économie de marché, on peut dire
condition,
comme ça.
À condition de la maîtriser, tout est là.
À condition qu'elle soit juste. Hostile à la décroissance, laïque et universaliste, rationaliste, c'est-à-dire que vous pensez que la science et le progrès technique peuvent nous aider à gagner la bataille du climat. Ça fait beaucoup de points qui vous différencient d'une partie de la gauche.
Oui, c'est vrai.
Et peut-être même d'une bonne partie de la gauche d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est la ligne juste.
Oui, mais ça c'est votre
avis. Si je peux me permettre. Prenez la décroissance. Comment voulez-vous faire avaler aux classes populaires qu'elles gagnent trop d'argent? Ça revient à dire ça, finalement. Ou alors on se passe dans une posture surplombante consistant à dire, oui, vous comprenez, les gens qui gagnent le SMIC, ils dépensent leur argent n'importe comment, ils achètent des produits qui polluent, ils ont du diesel, etc. Et donc, on va leur expliquer comment il faut vivre. Mais ça passera pas, ça marchera pas. Quand vous faites une décroissance, si les mots ont un sens, c'est ce qu'on va vivre d'ailleurs maintenant, le produit intérieur brut décroît, d'accord. Mais c'est le revenu. Le produit, c'est le revenu, c'est la même chose. C'est la version monétaire de la même chose. Et donc, on explique aux gens qui sont trop riches. Et en même temps, on dit, mais il y a trop de pauvres. Comment on concilie les deux? C'est quand même difficile. Et il y a plein d'exemples de ça. Et donc, on ne peut pas fixer comme horizon l'appauvrissement général de la population. Il faut respecter les objectifs qui ont été fixés en matière de réchauffement climatique, de lutte contre le réchauffement climatique, mais en changeant le mode de vie, on est d'accord, mais en utilisant aussi la raison, la technologie, l'industrie même.
Oui.
Comment on va sortir de la crise du Covid? On va sortir de la crise du Covid par un vaccin. Qui va trouver le vaccin? Les scientifiques les plus pointus,
oui.
Et qui sont dans des institutions qui sont financées souvent sur fonds publics. Ces fonds publics viennent de quoi? Ils viennent de la richesse moyenne.
Oui.
Donc si cette richesse baisse, vous aurez moins de facilité pour trouver des vaccins contre les maladies futures.
Mais la puissance du mouvement anti-science, voire anti-progrès d'aujourd'hui, ne vous a pas échappé. C'était
bien sûr. Mais
exposé...
Oui,
mais
il faut définir le progrès.
Dans votre ancien journal.
Oui. On propose, ce n'est pas une idée forcément à nous, qu'il y ait un deuxième indicateur, qui est le PIB, et à côté, un indicateur de bien-être. Ça a été mis en place, par exemple, dans un petit pays, mais bon, c'est un exemple, en Nouvelle-Zélande. Et ça fonctionne. Et ça sert de critère pour juger de l'action gouvernementale. Mmh. Vous avez des critères quantitatifs, qui sont ceux du PIB, qui sont insuffisants, et vous avez à côté des critères qualitatifs sur la qualité de la vie. Et donc, avec ces deux indicateurs, vous pouvez piloter mieux la transition écologique.
Autre sujet, je disais que parmi vos positions, il y avait celle fermement rappelée et régulièrement laïque et universaliste. Mmh. Hier, dans une lettre, dans votre lettre, vous avez repris vos lettres.
J'ai repris ma lettre.
Par d'autres canaux. Hein,
Suffit d'aller sur engageons-nous.org, excusez-moi de faire la publicité, et il n'y a pas besoin d'adhérer à l'association, et là, on peut s'abonner à la lettre.
Voilà, vous avez dénoncé les faux amis de Charlie Hebdo. Qui sont ces faux amis?
Ces faux amis sont ceux qui cèdent à la censure de fait. En France, il n'y a pas de censure d'État. Il peut y en avoir éventuellement. Enfin, il y a une loi sur la presse qui règle la liberté d'expression. Il y a des exceptions à la liberté. Tout est libre, sauf les exceptions. Mais maintenant, il y a une censure de fait. Il y a des conférenciers ou des conférencières qui ne peuvent pas aller dans certaines universités parce qu'il y a des groupes militants qui veulent les exclure. Quand on veut lire les lettres
de Charb,
dans certains endroits, vous n'y arrivez pas, parce que vous avez en face de vous des groupes qui menacent. Et les responsables ne veulent pas avoir d'incident, donc ils annulent.
Et c'est pas normal, grand syndicat d'étudiants...
Et je ne comprends pas pourquoi la gauche... la gauche s'est battue dès l'origine, je parle de la gauche démocratique, pas des communistes, mais la gauche démocratique se bat depuis l'origine pour la liberté d'expression. C'est une invention de la gauche, du 18e siècle, de la Révolution française. On abandonne ce patrimoine sous prétexte de ne pas déplaire à telle ou telle minorité, mais c'est rendre un très mauvais service à ces minorités. Elles apparaissent, elles, comme des gens... intolérants, quoi, ou presque tyranniques, qui n'admettent pas qu'on se moque de telle ou telle religion. C'est impossible, ça. La gauche doit réagir à ça. Elle ne peut pas abandonner ses propres principes. Et c'est toujours le même truc. Ça consiste à dire, oui, mais vous comprenez, c'est des gens qui sont opprimés, c'est des gens qui sont ce qui est vrai, et donc il faut écouter ce qu'ils disent. Moi, je suis d'accord. Il faut écouter jusqu'à un certain point, parce que les valeurs de liberté, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour la majorité ou pour la minorité ou pour telle couleur de peau ou pour telle autre. C'est absurde, cette histoire.
Alors, Laurent Geoffrin, quelles sont les chances et les conditions qui permettraient à la gauche, je ne dis pas de gagner en 2022, mais au moins d'accéder au second tour de la présidentielle? Votre chemin, votre tactique ou stratégie, je ne sais pas, c'est d'élaborer un programme.
Une plateforme, c'est de procéder en deux temps. D'abord, s'efforcer de rééquilibrer la gauche française. Vous l'avez dit vous-même, dont la partie réformiste est faible. Donc il faut l'augmenter. Mmh. Et je vous rappelle que le total, c'est dans les sondages, mais c'est quand même constant dans les résultats, ça fait 25%. 25%, ça passe pas.
Mmh.
Donc il faut élargir, par définition. Il faut renouer avec les classes populaires qui se sont largement réfugiées dans l'abstention, quand c'est pas au Rassemblement national. Donc il faut tenir un discours et faire des propositions qui vont dans le sens des intérêts des classes populaires. Et deuxièmement, il faut élargir aux macronistes déçus, tous les gens qui ont déserté cette gauche.
Oui, mais un programme, ça peut marcher dans un système parlementaire. En Angleterre, en Allemagne, vous savez très bien que ça n'a jamais pesé réellement dans une course présidentielle.
Ah, je ne suis pas d'accord. Si vous faites des propositions qui ne tiennent pas debout, ça se voit.
Oui.
Qu'on fait le débat Marine Le Pen-Macron.
Oui.
Elle était incompétente sur les questions monétaires européennes, ça s'est vu tout de suite. Il faut quand même réfléchir.
Oui, d'accord.
Il y a des choses qui tiennent la route.
Oui, mais
alors, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va émerger. Seulement, je ne sais pas qui. Et vous non plus, d'ailleurs.
Non, mais il y a beaucoup de noms qui circulent dans la presse encore ce matin dans le Figaro.
Je ne crains pas le vide.
L'hypothèse Anne Hidalgo semble prendre de la force.
Non.
Je ne sais pas.
Comme hypothèse, faut. Elle a géré la capitale de la France. C'est une femme tout à fait énergique, intelligente. Et donc voilà, c'est une hypothèse. Mais il faudrait qu'il y en ait d'autres aussi. Ou qu'on se rallie à celle-là, je ne sais pas. Mais encore une fois, moi, j'en suis pas encore là. Dans les mois qui viennent. Ça ne va pas durer très longtemps, mais on fait d'abord une plateforme et on propose une stratégie. Puis après, on verra bien qui l'incarne.
Engageons-nous, qu'on peut trouver évidemment sur la toile. Et puis
absolument.
Votre livre anti-Macron, vos lettres politiques enrichies d'une introduction
et d'une conclusion qui débouche sur le mot. mais les lettres ne sont pas ennuyeuses. Non.
Ah non, pas du tout. Non,
c'est une idée que j'ai, c'est que la politique ne doit pas être ennuyeuse. Donc j'essaye d'écrire de manière pas chiante.
Excusez-moi
de là.
C'est chez Stock. Merci beaucoup Laurent Geoffrin d'être venu.
Merci à vous de m'avoir convié.
Europe Midi, Patrick Cohen.